Vous écoutez RTL. L'Angle Écho.
7h44, François Langlais, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Quelle histoire ! Il y a un an, le numéro 1 français du ciment, Lafarge, annonçait sa fusion avec son homologue suisse, Holcim, pour constituer le plus grand groupe mondial du secteur. Et voilà que depuis deux jours, l'association prend l'eau.
Mais oui, il n'y a pas si longtemps, les deux groupes étaient très fiers de nous présenter ce qu'ils appelaient, dans leur langue de bois, une fusion entre deux groupes égaux. Et voilà que quelques mois plus tard, ça ressemble plutôt à une bataille d'égo. EGO. Le Suisse considère que les termes de la fusion sont trop avantageux pour le français Lafarge, qui marche moins bien que lui. Il voudrait donc les renégocier. Et puis surtout, il voudrait se débarrasser de Bruno Lafont, le patron Lafarge, qui devait devenir le dirigeant opérationnel du nouvel ensemble. Visiblement, pendant les fiançailles, le français a un peu énervé son homologue.
Mais comment des chefs d'entreprise qui ont la responsabilité de dizaines de milliers de salariés peuvent-ils ainsi changer d'avis ?
Ben vous savez, à haut niveau dans l'entreprise, c'est comme dans la vie. Il y a l'enthousiasme des débuts, les illusions, les trahisons, les jalousies, les déceptions. C'est essentiel pour les hommes que sont les dirigeants. Et pour les actionnaires, ben, c'est les questions de gros sous qui sont déterminantes. En l'occurrence, selon les informations du Figaro, c'est l'un des actionnaires de Lafarge, le Belge Albert Frère. Oui. Richissime, qui tire le tapis sous les pieds de la direction française parce qu'il considère qu'elle ne dégage pas assez de bénéfices. Et c'est un peu la vie des animaux.
Ça veut dire que les considérations personnelles prennent le pas sur l'intérêt stratégique des entreprises ?
Elles sont déterminantes et elles peuvent parfois entrer en contradiction avec l'intérêt des entreprises parce que les patrons considèrent que tout ce qui est bon pour eux est bon pour l'entreprise. Ils ont souvent l'obsession de grandir, de racheter leurs concurrents. Alors que les fusions sont des opérations traumatisantes pour une entreprise. Dans les deux entités concernées, en effet, tout le monde a peur pour son job pendant des mois. Parce qu'on sait bien que toutes les fusions se traduisent par des emplois en moins. Pour chaque fonction, vous avez deux candidats, bah, il faut en supprimer un. C'est même pour ça que les fusions sont faites. Contrairement à ce que disent les directions, une fusion, c'est fait pour augmenter le chiffre d'affaires en réduisant les coûts.
Rassurez-nous, il y a quand même des fusions qui se passent bien.
Bah, pas beaucoup. Bon. 2 sur 3 échouent, figurez-vous. C'est quand même très significatif. Parfois même, avant d'être concrétisé, comme Publicis et l'américain Omnicom, il y a quelques semaines, où les deux patrons se sont empaillés comme deux enfants autour de leur jeu de Lego. Ou après l'exécution, comme Carrefour et Promodès, Vivendi Universal, Daimler et Chrysler, ça a été des catastrophes qui ont coûté aux entreprises des années de désorganisation et des milliards d'euros. Les seules fusions qui marchent n'ont rien d'égalitaire. C'est quand il y a un rapport de force clair entre l'acheteur et l'acheté, et c'est l'acheteur qui décide tout seul et vite. Là, ça fonctionne. Le meilleur exemple, c'est BNP Paribas, qui a été un modèle, ou Renault-Nissan.
Mais alors pourquoi les entreprises se lancent-elles là-dedans si c'est périlleux à ce point ?
Ben, y a les rêves de gloire des patrons, d'abord. Les cours de bourse, ensuite. La plupart des fusions se déroulent lorsque la bourse est à son plus haut, parce que ça donne aux entreprises le sentiment d'une puissance qui est d'ailleurs souvent artificielle. Et puis, il y a aussi la mode. Ça peut sembler curieux, mais ces décisions ne sont pas toujours très rationnelles.
François Langlais, tous les jours, pour L'Angle Écho.